autant et sinon plus que par la droite.
Frédéric Lordon, les années 80, un cauchemar?
Ah, on peut quitter le lexique des bons et des mauvais rêves et dire qu'en tout cas, c'est la décennie des très grandes transformations, pour reprendre le titre d'un ouvrage fameux d'un économiste qu'on a un peu oublié, qui s'appelle Karl Polanyi, qui écrivait en 1944. C'est une décennie au cours de laquelle le capitalisme français, et pas que lui d'ailleurs, va changer de visage. Il va changer de visage parce que vont être refaites sur des bases tout à fait neuves les grandes structures qui encadrent l'activité économique et dont on pourrait dire, en simplifiant, qu'elles sont au nombre de trois. La première, c'est ce qui concerne la concurrence, c'est-à-dire l'organisation des marchés de biens. La seconde, c'est attrait à la finance. Donc là, on va avoir le phénomène de la libéralisation financière à partir de 1986. Et la troisième, c'est celle qui va installer un certain modèle de politique économique en rupture avec tout ce qu'on avait connu pendant cette période qu'on avait appelée les Trente Glorieuses, modèle de politique économique alors qu'on qualifiait de keynésien. Et le grand tournant de politique économique, on va le retrouver quelques années plus tard dans la construction européenne achevée.
Alors, on va rester avec cette émission de Bernard Pivot, à laquelle participait quelqu'un qui était quand même largement en avance sur vous, et qui s'appelle Guy Hockenheim, qui est disparu depuis, mais qui, au cours de cette soirée, où Bernard Pivot recevait d'éminents intellectuels tels que Laurent Dispot, tels que Pascal Bruckner et quelques autres, Guy Hockenheim faisait montre d'un certain sens de l'histoire et du temps. Il était question du bouquin qu'il venait de sortir, qui s'intitulait « Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary ». Guy Hockenheim.
Alors, Guy Hockenheim, là j'ai le choix là, pour donner votre ton, votre colère, ex-gaucho, ex-contestataire, ex-révolté, ex-mari, toujours en divorce de mai 68, aujourd'hui membre à vie du club ouaté des renégats.
Les renégats sont tous ceux qui, tout simplement, ont écrit des livres ou ont participé médiatiquement, dans des journaux ou à la télévision, à cette forme de restauration des idées que nous avons vues depuis une dizaine d'années. C'est ça qui m'a provoqué à écrire ce livre. Je veux dire, c'est une génération dont je crois réellement que le rôle historique est aujourd'hui néfaste, qu'elle occupe beaucoup de postes de responsabilité, qu'elle est puissante, qu'elle est comme une camarilla ou une mafia, les ex-gauchistes, comme on dit, mais que son axe, sa volonté de puissance, c'est de renier ses anciennes utopies.
Alors ce renégat, il a le nez de Glucksmann, le cigare de Julie, les lunettes rondes de Coluche, le bronzage de Lang, les cheveux longs de Bizot, la moustache de Debray, la chemise ouverte de BHL et la voix de Kouchner. Donc, quand vous dites le nez de Glucksmann, il n'y aura pas une petite pointe d'antisémitisme, un petit peu?
L'antisémitisme est une chose haïssable, tout le monde est d'accord là-dessus sur ce plateau. Vous voulez qu'on fasse un sondage sur tous les invités? Tout le monde est d'accord. Il n'y a aucun problème là-dessus. Comme par hasard, il y a une forme de chantage à l'antisémitisme qui s'est instaurée également depuis que ce que j'appelle ce mouvement de reniement, de ralliement en même temps au pouvoir politique, s'est institué. Il y a un chantage continuel, on ne peut pas dire à propos de soit Bernard-Henri Lévy ou Glucksmann, quoi que ce soit, qui soit de l'ordre de la critique,
sans qu'on parle de ses oreilles, mais tu as parlé de son nez, c'est quand même pas rien, enfin, parler d'un nez, du nez pour
un nez aussi. Écoutez, je tiens vraiment à ce qu'on arrête sur ce terrain-là.
Voilà, on est en 1986, hein, ce document date de 1986, donc Guy Hockenheim. Réaction, François Cusset?
Ce que je trouve incroyable dans cet enregistrement, c'est que ça pourrait avoir été enregistré hier soir, littéralement. Le fait que quelqu'un arrive avec un livre critique, un véritable argument, et qu'on lui ressorte l'antisémitisme comme effectivement invalidant tout le livre, alors qu'il s'agit juste du nez de Glucksmann. Et puis surtout, la liste, l'espèce de portrait robot de la génération qui fait avec tous ces noms, mais on... La totalité des noms qu'il mentionne sont des gens sur le devant de la scène. Donc, il faut quand même préciser qu'Hockenheim, à l'époque, quand il sort ce bouquin, qui va avoir un certain succès, est extrêmement seul. Hein. Ce type de propos sur la restauration, la contre-révolution, a l'air mais complètement surréaliste, même pas proto-marxiste, a l'air incompréhensible en 86. Donc, il est tellement seul qu'effectivement, on pense que c'est un antisémite, voire peut-être un homosexuel militant, puisque c'est ce qu'il a été. Bref, il est inaudible, moi, je pense, à cette époque-là. Le livre, pourtant, est beaucoup plus subtil que ça. Il faut quand même rappeler que ce n'est pas uniquement l'accusation d'une génération. Il précise au début que la notion de génération est toujours liée à un échec, à une rancœur, à un ressentiment, que tout ça est plus compliqué que simplement une affaire de génération. Il y a une continuité. Il faut penser la continuité de...